Voilà, approchez-vous. Oh, mais on a des cons. Oh, Catherine, vous mettez si loin que ça? Ouh. Incroyable, ça. Bon, mais je vais vous faire un aveu, je n'ai jamais fait de cours sur les vertus morales. J'en ai si peu que je pense que c'est un peu indécent d'en parler, par absence. Mais ça traduit bien, vous allez vite comprendre, tout un trait de la formation que j'ai reçue d'une part, et puis d'autre part des axes que j'ai particulièrement fréquentés. Et c'est vrai que les vertus ne font pas partie des premières choses auxquelles je suis sensible. Mais ce n'est pas une raison, parce que ça occupe incontestablement une place dans la théologie de l'Église, dans son enseignement. Si on lit la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, on voit que ce traité des vertus, c'est une partie importante de la Segunda Pars, la deuxième partie qui est consacrée à l'homme. Et donc, et aujourd'hui, de divers côtés, on entend des gens nous dire que c'est très très important de partir des vertus. Alors, pour vous mettre en appétit, je vais vous lire un passage que j'ai trouvé dans le dictionnaire de morale catholique du père, je crois maintenant Monseigneur, Jean-Louis Bruguès, qui nous dit ceci, qui n'est pas sans nous interpeller, comme on dit. Comme beaucoup d'autres termes appartenant au vocabulaire ancien, le mot de vertu s'est singulièrement dévalué. Ils sont aujourd'hui la rance et le mièvre. Sans doute réagit-on ainsi contre les excès des Lumières qui, au nom de la vertu, Robespierre, Saint-Just, imposèrent la plus sanglante des tyrannies, au contraire le puritanisme du siècle dernier qu'il avait circonscrit au domaine étroit de la morale et particulièrement de la morale sexuelle. Enfin, contre une présentation trop bourgeoise, trop individualiste, trop narcissique même. Donc il intègre la critique. Il faut le dire avec force, la vertu doit jouer un rôle essentiel en morale chrétienne. Alors voilà, c'est pour ça que je me suis dit quand même, je ne vais pas finir l'année sans en parler. Enfin, c'était au programme, rassurez-vous, de toute façon. Le grand problème moral n'est pas d'abord d'éviter la faute, en transgressant des prescriptions nettement formulées, mais de vivre, de grandir dans le bien et de tendre vers la perfection. La vertu propose en effet une éthique de la construction de soi. Elle combat toute dérive légaliste à quoi elle expose une morale centrée sur la loi. Elle empêche tout juridisme, elle maintient l'éthique chrétienne dans une perspective sapientielle originelle. Dans sa perspective sapientielle originelle. C'est sapientielle, c'est en rapport avec les livres de sagesse, sapiens, sagesse. La nature humaine ne se présente pas comme une totalité achevée, elle est constituée par un faisceau d'inclinations et de possibilités. Comment cultiver la nature, c'est-à-dire développer les virtualités qu'elle contient et les conduire à leur excellence. Alors, voilà, tous les problèmes sont posés par ça. Vous allez voir que je ne serai pas complètement d'accord avec ce qui est dit là, mais malgré tout, soyons honnêtes et regardons d'abord sérieusement ce qu'il y a derrière. Alors, le mot vertu, comme vous allez le voir, n'est pas très présent dans la Sainte Écriture. Par contre, il fait allusion à toute une réflexion philosophique extrêmement développée qui a précédé le Christ, en gros, qui est en gros dans le monde grec. Donc il est difficile de parler de la vertu sans parler d'abord de ce qui s'est dit dans la philosophie grecque à ce sujet. Alors, je commence par une petite remarque de vocabulaire, comme j'avais fait la dernière fois. Le mot grec qu'on traduit par vertu, c'est arrêté. Petit accent aigu et accent grave. Qui dérive du verbe aresco, qui veut dire plaire. C'est l'homme qui a de la vertu, c'est qu'il y a quelque chose en lui de plaisant, de beau, de réussi, de valable. Hein. Par contre, le latin virtus, qui a donné évidemment vertu en français, est en rapport avec la force, vice, et l'homme, au sens masculin du mot, vir. Et en hébreu, On cherche en vain un mot, il n'y en a pas. Hein. L'hébreu n'a pas du tout développé cette piste-là. Alors bien sûr, on connaît les qualités d'un homme, on peut dire d'un homme qu'il est bon, qu'il est juste, etc. On a beaucoup de mots pour dire, mais le terme abstrait correspondant n'existe pas. Alors peut-être que dans l'hébreu moderne, il existe, je ne sais pas. Alors donc, je suis amené à vous faire un petit parcours d'abord philosophique. C'est pas tout à fait habituel, mais c'est nécessaire. La vertu s'enracine dans l'expérience de l'éducation. Il y a la paideia, comme on dit en grec, c'est quelque chose d'extrêmement important, et l'éducation antique est malgré tout une très belle expérience humaine qui a marqué l'histoire de la culture. Le but, c'est de former un homme. Alors, je dis homme, bien sûr, surtout des hommes qui sont concernés, mais il y a quand même tout à fait un équivalent féminin aussi de ça. C'est pas la femme grecque n'est pas complètement sans qu'on s'occupe de sa culture, de sa formation. Mais enfin, évidemment, en premier lieu, on pense à une culture masculine, surtout dans cette société où les sexes sont assez séparés, ce qui entraîne qu'ailleurs, vous savez, la place énorme de l'homosexualité qui justement se développe par l'éducation. Le rapport de maître à disciple souvent teinté de ce petit côté-là. Donc la paideia grecque, il s'agit de former quelqu'un qui est, comme on dit en grec, kalos kagatos, à la fois beau et bon. C'est l'homme réussi, c'est l'homme épanoui, l'homme qui est sportif, qui est brave à la guerre, qui est cultivé, qui connaît la musique, qui est capable de parler à l'assemblée du peuple, donc qui a une certaine éloquence, enfin... Voilà le modèle qu'on voit bien à travers les dialogues de Platon, par exemple. On voit ces Alcibiades ou d'autres, on voit ces jeunes gens qui sont passés par toute cette éducation et qui, de fait, on développe des talents très variés et assez remarquables. Mais c'est toujours lié à la cité, c'est-à-dire qu'avant tout, c'est des citoyens qu'on forme. Et l'idéal reste toujours dans la perspective de la cité, soit qu'on la défende en étant un soldat valeureux, soit qu'on l'illustre par les arts, par le sport, mais c'est toujours une perspective citoyenne. Alors Platon, comme vous savez, disciple lui-même de Socrate, mais comme Socrate n'a rien écrit, eh bien on est plutôt dépendant de Platon, la vertu, d'abord, chez lui, il ne parle pas des vertus, il parle de la vertu, arrêtée, et il développe une image qui est extrêmement parlante dans La République, un de ses ouvrages principaux, entre la cité, alors il rêve, il essaie de définir la cité idéale. Comment est-elle faite? Elle est faite quand chacun est à sa place. Donc il y a des gens qui sont doués, qui sont formés pour ça, pour être les dirigeants, c'est-à-dire qui ont des capacités d'intelligence, de volonté. Il y a ceux qui seront les guerriers, hein, et puis il y a ceux qui feront vivre la société par leur travail productif. Or, Platon dit ça correspond à trois parties de l'être humain. L'être humain, c'est un peu comme une cité. Hein, il y a les facultés supérieures de l'intelligence et de la volonté, il y a ce qu'il appelle, enfin ce qu'on appellera après lui l'irascible, c'est-à-dire cette émotion, quand on sent que la justice est bafouée, une sorte d'insurrection en nous, une espèce de volonté de rétablir les choses bien, alors c'est l'équivalent des guerriers dans la cité, et puis il y a tout le côté d'appétit, la consommation des biens, eh bien, tout ça, c'est rapport avec la catégorie productrice. Donc, il y a les facultés supérieures, il y a l'irascible et le concupiscible, comme on dira après, mais ce n'est pas des mots de Platon. Donc, il s'agit de que l'homme forme un tout unifié dans lequel chaque chose est à sa place. C'est la raison, évidemment, qui commande, qui donne les buts, les orientations, la volonté qui suit, mais il faut que ça soit aussi soutenu par une force de caractère, donc c'est, et également par une modération de ses appétits. Donc, tout ça, ça va pratiquement continuer après Platon, ce que dit... Donc, alors Aristote, qui est disciple de Platon, mais qui s'est séparé de lui sur pas mal de points, pour lui aussi, la vertu est destinée à un but qui est de réussir sa vie. Et il exprime par ce mot de bonheur. Alors, il ne faut pas se tromper, c'est pas une morale hédoniste, c'est pas le désir, le plaisir. Le bonheur, c'est pleinement coïncider avec ce qu'on est, c'est de réussir sa vie, quoi, en gros. D'avoir tiré parti de toutes ses potentialités, donc voilà le bonheur. Donc c'est une morale du bonheur, donc c'est pas très sympathique à entendre, et il s'agit de voir que dans notre fond, il y a des semences, des germes de vertu qu'il va falloir pouvoir mettre en jeu, enfin de les faire grandir. Et c'est le but de l'éducation. Mais ensuite, l'éducation ne s'arrête pas au moment où on devient un adulte, c'est toute sa vie qu'il va falloir exercer ses vertus, elles vont grandir par l'exercice. Par exemple, il ne suffit pas d'avoir du courage, d'être fort, il faudra aussi exercer ce courage dans des situations où on est face au danger, face à une difficulté, d'exercer la vertu pour la faire grandir. Alors, donc il va y avoir toute une hiérarchie des vertus. La prudence occupe évidemment une place tout à fait spéciale, parce qu'elle est une vertu qui est à la mitoyenne entre l'intelligence, puisque la prudence, c'est de savoir orienter sa vie, c'est de savoir faire les choix importants dans le bon sens, et en même temps, elle commande la volonté. Donc, elle est une vertu un peu mitoyenne, et la justice lui est associée comme la capacité de peser la valeur des choses et de donner à chaque chose ou à chaque personne ce à quoi il a droit. Donc c'est elle qui va nous permettre de répartir nos forces entre un certain nombre de choses et puis de rendre à l'autre ce à quoi il a droit, selon sa qualité, son importance, si c'est un conjoint, si c'est des enfants, si c'est la patrie, si c'est la cité. Donc la justice, c'est aussi très important. Et puis il y a deux vertus qui correspondent, l'une à l'irascible, c'est-à-dire qui est la force, et l'autre, concupiscible, qui est la tempérance, qui modère les appétits et fait qu'on sait se tenir dans une certaine moyenne, ni trop ni trop peu. Si on ne mange pas, on va tomber en consommation, mais si on mange trop, si on mange démesurément, on va aussi tomber malade, donc ce n'est pas le bonheur, tout ça. Donc la tempérance régule les appétits naturels. La sexualité, l'appétit, la nourriture, mais aussi toutes les choses que nous sommes tentés de faire par un élan un peu naturel qui nous porte de ce côté-là, il faut de la tempérance. Alors, ce qui est très fort chez Aristote, c'est que ce traité des vertus que je vous ébauche extrêmement rapidement et de façon un peu schématique, en fait, il s'appuie sur une vision cohérente de l'être humain, une anthropologie, comme on dit. Et c'est ce qui est, parce que, vertu, ça va être vu autour d'une catégorie qui est très importante chez Aristote, qu'on appelle, souvent on le dit en latin, l'habitus. L'habitus, ça ne veut pas dire l'habitude, mais l'habitus, c'est... une qualité qu'on a généralement acquise et qui est maintenant disponible en quelque sorte. Je prends un exemple qui n'est pas d'Aristote évidemment, qui est celui de savoir monter à vélo par exemple. Eh bien, on ne l'a pas naturellement, mais il y a un jour où on apprend. Une fois qu'on l'a appris, généralement, on n'est pas obligé de refaire, de le réapprendre à chaque fois, quoi. On l'a comme une disposition, même presque inscrite dans le corps, qui va faire qu'on va continuer à le faire et qu'on va le faire de plus en plus facilement, de plus en plus spontanément, etc. La vertu, donc, est un habitus. C'est un trait durable. Alors, ça se dit en grec « exis », mais je passe. Hein, c'est une disposition stable. Il n'y a pas vraiment de mot français pour dire ça. On a toujours recours à des périphrases pour dire ça, mais c'est une réalité très importante. On a des habitus, des traits durables de notre personnalité qui peuvent être mauvais d'ailleurs, qui ne sont pas forcément bons. Il y a aussi des mauvaises... je ne dis pas habitude, parce que français habitude, ça veut dire des actes qu'on répète. Tandis que l'habitus, c'est une disposition qui est inscrite dans le sujet. Donc il va... Alors, il y a des vertus morales. Alors, en fait, il n'y a pas que les quatre grandes, justice, prudence, tempérance et force, mais il en compte au total 11. Hein. Alors, on est surpris, il y a la magnanimité, par exemple. C'est une des formes de la force. Être magnanime, c'est-à-dire pouvoir, même dans l'adversité, être digne, pardonner éventuellement à son adversaire, etc. Donc il y a des grandes vertus, des petites vertus, enfin, excusez-moi l'expression malsonnante maintenant, mais il y a ces vertus morales qu'il détaille avec beaucoup de soin et de précision en indiquant ce qu'elles sont. Donc, pour lui, la vertu, c'est un habitus qui entraîne un attrait pour la chose. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire malgré soi. Si, par exemple, j'ai l'habitus de la justice, eh bien, je serais heureux d'être juste. Ça me gênerait même de ne pas l'être. Si j'ai l'habitus de la vertu de la modération dans la nourriture, eh bien, ça va devenir une seconde nature, en quelque sorte, et je le ferai spontanément et avec naturel, quoi, en y mettant... Donc, vous voyez, c'est pas exactement ce que, plus souvent, on appelle vertu. Hein. Il s'agit de quelque chose qui est tout hanté sur une perception de la nature humaine qui est... derrière lesquels les actes, au moins certains actes, entraînent des dispositions stables. Alors, après Aristote, il y a encore beaucoup de choses qui se passent, notamment les stoïciens. Les stoïciens ont beaucoup réfléchi sur les vertus, et même eux qui ont popularisé le fameux quatuor prudence, justice, force, tempérance. Et nous avons dans Cicéron, qui n'est pas un grec, qui est un latin là, nous avons le fruit de l'enseignement stoïcien, parce qu'en gros, philosophiquement, Cicéron était un stoïcien. Il avait été l'élève d'un certain Posidonius qui lui avait enseigné la philosophie stoïcienne. Donc, dans le stoïcisme, il y a beaucoup plus l'idée que les passions sont quelque chose de dangereux, sont comme une maladie de l'âme, et que les vertus ont pour tâche de les corriger. Ce n'est pas tout à fait la pensée d'Aristote. Il n'y a pas ce côté répressif, en quelque sorte, des vertus chez Aristote. Il y a au contraire de développer une attitude belle et noble de l'âme qui va devenir naturelle. Tandis que chez les stoïciens, il s'agit de combattre, en quelque sorte, des passions qui sont des dérèglements et qui nous entraînent et qui nous font souffrir aussi, parce que généralement elles sont tyranniques, les passions, c'est bien connu. Donc voilà ce que je peux dire très rapidement. Excusez-moi, si vous avez fait des études de philosophie morale, peut-être que vous trouverez que je suis très très sommaire. Alors, avec ces lunettes-là, on va regarder d'abord un petit peu la Bible. Alors, l'Ancien Testament, comme on peut s'y attendre, n'a quasiment rien à nous dire là-dessus. Sauf que, bien sûr, il y a des belles figures dans la Bible, il y a des hommes bon, généreux, il y a David qui épargne Saül, dont on parle la mansuétude de David, l'amitié fidèle de Jonathan, la sagesse de Salomon, la chasteté de Suzanne, enfin, il y a de beaux, belles figures dans la Bible. Et le livre de la sagesse met en valeur certaines qualités qui sont souvent exprimées d'ailleurs par ce qu'on appelle un makaris, c'est-à-dire bien heureux, heureux, hein, comme les béatitudes de l'Évangile, qui sont d'ailleurs un peu différentes, mais bah, on dit heureux l'homme qui suit la loi du Seigneur, heureux l'homme qui n'est pas vindicatif, heureux l'homme qui, etc. C'est une manière d'indiquer une vertu, finalement. Alors, on voit apparaître les vertus dans le tout dernier livre de l'Ancien Testament, qui est le livre de la sagesse, qui a été écrit en grec, et qui est visiblement écrit par quelqu'un qui connaît les philosophes, sans doute surtout stoïciens. Donc on a cette phrase, ces labeurs, ceux de la sagesse, ce sont les vertus. Elle enseigne en effet tempérance et prudence, justice et force. On trouve le fameux quatuor des stoïciens là. C'est qui le plus utile aux hommes dans la vie. Voilà. Les lettres de noblesse de la sagesse arrivent quand même à la fin de l'Ancien Testament. Bon. Alors passons rapidement sur le Nouveau Testament. Bien sûr, dans l'Évangile, il n'y a rien qui ressemble à ça de près ou de loin, même si Jésus peut décerner des compliments à des gens qui se conduisent bien. Ah, voilà un véritable fils d'Israël, incapable de mentir. Et Jésus, à propos de Nathanaël, il salue la foi du centurion, la générosité de la pauvre veuve, etc. Mais il n'y a pas une théorie de la vertu, bien évidemment. Alors, ça arrive avec saint Paul, qui, lui, a été formé par les philosophes stoïciens. On sent qu'il a une très, très grosse formation philosophique, saint Paul. Donc, il n'a pas peur de parler des vertus. Donc, alors, le principal passage, c'est ce passage des Philippiens, que d'ailleurs je vous ai cité dans un cours précédent. Tout ce qui y a de vrai, de noble, de juste, de pur, d'aimable, d'honorable, tout ce qui peut y avoir de bon dans la vertu et la louange humaine, avec un S parce que humaine c'est un facteur commun entre vertu et louange, voilà ce qui doit vous préoccuper. Donc il dit aux chrétiens, vous avez des raisons de faire le bien qui est de répondre à l'amour de Dieu, de suivre ce que Jésus vous a montré, mais pendant que vous y êtes, ne soyez pas en reste sur toutes ces choses que les païens ont réussi à mettre en valeur et qui est le meilleur au fond de ce qu'ils ont fait. Donc ne rejetons pas ça, il ne faut pas qu'on fasse moins bien qu'eux, quoi. Donc il faut que vertu, donc tout ce qui est noble, juste, pur, aimable, honorable, voilà le domaine des vertus. Et bien voilà, les chrétiens doivent mettre ça aussi à leur patrimoine. Donc, il y a d'assez longs passages qui mettent en valeur des vertus, l'endurance, l'humilité, la force, la piété, enfin, vous pouvez regarder les textes, etc. Je ne l'ai pas mentionné ici, mais évidemment, c'est aussi lui qui nous donne le fameux trio foi, espérance et charité, dont on va faire les vertus théologales. On va aussi donner le nom de vertu à ces trois choses. C'est pas saint Paul qui le fait d'ailleurs, mais je crois que c'est saint Ambroise le premier qui parle de les trois vertus, foi, espérance et charité. Enfin, il essaie de mettre un mot là-dessus et c'est le mot de vertu qui est employé. Bon, là je ne vous l'ai pas mis, mais c'est clair que saint Paul, en tout cas, dans son fameux hymne à la charité d'1 Corinthiens 13, termine en disant... ce qui reste, c'est la foi, l'espérance et la charité. Et la plus grande des trois, c'est la charité. Donc, quelquefois, il est beau. Alors, il y a d'autres cas, notamment enfin dans mais enfin une certaine enchaînement des vertus. La tribulation produit la constance produit une vertu éprouvée, la vertu éprouvée produit l'espérance. C'était souvent une manière assez courante de parler chez Philosophe, d'indiquer une concaténation, comment dire, enfin, mettre comme des maillons de la chaîne, des vertus qui s'impliquent toutes les unes les autres. Il y en a qui commencent par l'une, l'autre qui commence par l'autre, mais enfin, on essaie de montrer qu'il y a un enchaînement des vertus, en quelque sorte. Alors, que vont faire les pères de l'Église avec ça ? Ça, c'est ça qui nous intéresse plus que tout, parce que c'est eux, finalement, qui ont commencé à penser la place des vertus dans le christianisme. Alors au début, ça a été du bricolage, c'est-à-dire qu'on voit qu'ils mettent en valeur les vertus, mais ils ne les rattachent pas organiquement au cœur de la morale, qui reste finalement la morale biblique, c'est-à-dire la morale de l'Alliance. Le père Saint-Cys, qui est tout à fait de nos amis, a écrit un ouvrage dont je me suis pas mal inspiré pour faire ce cours, qui s'appelle « De l'utilité des vertus », dans lequel il commence par un chapitre tout à fait important pour dire qu'au fond, à ses yeux, il y a deux piliers de la morale chrétienne. Il y a finalement tout le thème biblique sur lequel j'ai énormément insisté, c'est-à-dire l'alliance, la relation de Dieu avec l'homme, Dieu qui propose sa loi et l'homme qui est invité à obéir et à consentir et à participer à sa guérison. Alors ça, je vous en ai énormément parlé, mais il dit oui, mais il y a un autre aspect qui est les vertus. Donc on voit que finalement l'arrivée à tenir ensemble ces deux choses n'a pas été si facile dans l'histoire de l'Église. Et le premier qui est vraiment réussi, c'est saint Augustin. Saint Augustin, qui était évidemment un génie, on est tous convaincus, hein, il repense en profondeur le thème philosophique de la vertu dans une perspective théologique. Alors, je vous ai cité deux textes un peu longs de lui parce qu'ils me paraissent capitaux. Dans le premier, au fond, il nous dit ce que disait mon dernier cours, en gros, c'est que tout est contenu dans la charité. C'est que la charité, c'est-à-dire la volonté, la triple charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu, de nous-mêmes et des autres, contient toute la morale. Et pour lui, les vertus sont finalement des spécialisations de la charité. Donc voilà son texte. « Si la vertu nous conduit à la vie heureuse, j'ose affirmer que la vertu n'est absolument rien d'autre que le souverain amour de Dieu. » Évidemment, Platon, Aristote, ils n'ont jamais dit ça une minute. Hein. Je ne sais même pas s'ils l'ont pensé une seconde. Mais peut-être, mais en tout cas, ils ne l'ont pas dit. Tandis que pour Augustin, il est évident que l'amour, qui est d'abord notre amour pour Dieu, et puis qui inclut, comme j'ai essayé de vous le montrer dans le dernier cours, l'amour de nous-mêmes, en tant que créature aimée de Dieu, et l'amour des autres en tant qu'également aimée de Dieu, eh bien, c'est au fond le mainstream, enfin, c'est le courant principal, et les vertus sont des applications. Alors voilà comment il l'explique. Car en disant que la vertu qu'elle est quadripartite, alors maintenant vous êtes familiarisé avec ce quadripartite, on le dit autant que je le comprends des divers mouvements de l'amour lui-même. Aussi ces fameuses quatre vertus, il s'en moque un peu, vous voyez, plaisent au ciel que leur force soit dans tous les esprits comme leur nom et dans toutes les bouches. Ta 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 ta. N'hésiterai-je pas à les définir ainsi, la tempérance et l'amour qui se donne intégralement à ceux qu'il aime. Aristote serait tombé à la renverse de cette définition de la tempérance. Hein. La vertu régulative et modératrice qui était pour lui la tempérance devient ici l'amour qui se donne intégralement à ce qu'on aime. Mais à ce qu'on aime, c'est-à-dire à Dieu, au prochain et à nous-mêmes. Donc on veut par-dessus tout l'amour. Et donc, à cause de ça, on réfrène tout ce qui n'est pas vraiment de l'amour, tout ce qui est de l'égoïsme. Je pense qu'il faut le comprendre comme ça. Alors, continuons. Le courage est l'amour qui tolère tout facilement pour ce qu'il aime. Donc, si pour aimer Dieu, je dois affronter la persécution, la haine des autres, je vais être fort, je vais être courageux. S'il faut, pour servir quelqu'un qui est en difficulté, avoir de grandes fatigues, passer des nuits sans sommeil, etc., eh bien, je le ferai par amour. Donc, c'est la force. Ce qu'il appelle le courage, là, mais c'est la même chose. La justice est l'amour qui sert exclusivement à ce qu'il aime et à cause de cela domine avec rectitude. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Il veut dire donc que l'amour, quand il est qualifié comme justice, devient cette capacité de rendre intégralement à l'autre cet amour et de ne pas en quelque sorte le dilapider à des choses qui n'en valent pas la peine. Donc, qui est capable de faire des arbitrages droits au profit de l'amour, ne tolérant pas les mauvais partages dans lesquels on donnerait un peu à tout et finalement on donnerait rien de solide. La prudence est l'amour qui sépare avec sagacité ce qui lui est utile de ce qui lui est nuisible. Donc, dans cette première phrase, je ne vous ai pas mis la référence, attendez, ça vient de, je crois, du Delibero Arbitrio de Saint-Augustin. Attendez, pom-pom-pom. Donne ce texte. Alors, non, c'est dans les mœurs de l'Église, des Moribus Ecclesiasticis. Ensuite, on la voit comme. Alors, ça, c'est la première approche dans laquelle les vertus sont simplement une des expressions, finalement, de l'amour. Donc, comme ça, il rattrape tout. Il unifie tout. Il unifie l'approche biblique dans laquelle l'amour est l'attitude qui est celle de l'homme devant Dieu et devant son prochain. Mais dans ce cas-là, à la limite, les précisions sont peut-être moins importantes. Alors ensuite, il y a un autre travail, une autre manière de présenter les choses qu'on trouve également chez saint Augustin. Il voit la vertu comme une règle dont nous devons faire usage ou dont nous ne faisons pas usage. Alors règle n'a pas le sens de règlement. Il s'agit de règle, c'est-à-dire de quelque chose qui dirige, un tube en quelque sorte par lequel le souffle passe pour aller dans la direction où il doit aller. La règle, c'est ce qui dirige l'effort, qui lui donne un but et un sens. Alors voilà ce qu'il dit. Il suffit que tu vois avec moi, que tu reconnaisses comme absolument certain que ces règles, pour ainsi dire, et ces lumières des vertus, donc, la vertu est définie comme règle et lumière, on reviendra peut-être sur ça, sont vraies, et que chacune en particulier et tout ensemble sont présentes comme un objet de contemplation à ceux qui sont capables de les voir, chacun par sa raison et son esprit. Donc, pour lui, les vertus sont objets de contemplation, c'est-à-dire il s'agit de regarder la beauté, la valeur de ces choses, de se dire, par exemple, la justice, c'est drôlement chouette, quoi. La justice, c'est un homme qui est capable de vraiment de voir le fond du problème et en toute impartialité de pouvoir donner raison à ce qui mérite qu'on lui donne raison et au contraire à rejeter ce qui doit être rejeté. Ça, c'est beau. Cet homme qui n'est pas influencé par ses jugements a priori, ses préjugés, qui va droit au but et qui voit le nœud finalement la question qui se pose et est capable de lui donner la bonne réponse, ça c'est magnifique. Alors, il y a donc les deux mots de règle et de lumière. C'est deux mots différents qui ne disent pas exactement la même chose. La règle, c'est que de la vertu se dégage toute une direction, et tout un chemin d'effort, probablement, pour y arriver. Lumière, au contraire, c'est plus contemplatif, en quelque sorte. La lumière, c'est qu'il y a... Si nous avons en nous l'intelligence de ce qu'est la justice, eh bien, nos choix concrets vont être éclairés par cette idée que nous avons de la justice. Le Père Saint-Hilaire prend l'exemple de pourquoi nous devons payer nos dettes. Il y a plusieurs raisons. On peut donner, dire, ben, si je ne le fais pas, je vais être traîné au tribunal, ou au contraire, si tout le monde se met à ne pas payer ses dettes, il n'y a plus de société possible. Enfin, il y a bien des raisons pour lesquelles on peut payer ses dettes, mais la vraie raison, c'est que notre dignité d'être humain, c'est de donner à autrui ce que autrui est en droit d'attendre de nous. Et que c'est là que nous atteignons quelque chose de beau dans notre humanité. Donc en fait, la vertu, c'est une lumière qui vient éclairer un choix donné qui nous permet de le voir sous le bon angle et nous permet de se dire « Ah ouais, c'est ça que je veux. Bon, » même si je pouvais être malhonnête de façon, enfin, sans risquer d'être puni, eh bien, je ferai quand même parce que c'est respecter quelque chose qui en vaut la peine, c'est qui est digne de l'homme, comme aurait dit Jean-Paul II, et digne de notre humanité. Donc les vertus sont objets de contemplation. On va peut-être retenir ça, qu'elles sont comme une direction qui est donnée à notre âme, à notre cœur, et de nous indiquer quelque chose qui correspond profondément à ce que nous sommes, à ce que Dieu a mis en nous, à ce qu'il nous a montré. C'est pas contradictoire avec la présentation précédente, évidemment, mais c'est peut-être un peu plus précis quand même. Alors maintenant, évidemment, il faut en arriver à saint Thomas d'Aquin, parce que c'est complètement incontournable, la synthèse thomiste des vertus. Alors, je me sens tout petit bonhomme, parce que d'abord, c'est d'une complexité, vous ne pouvez pas imaginer, le traité des vertus, c'est des semaines de travail pour arriver à se repérer au milieu du maquis de tout ça. Mais ce que je vais vous en dire, c'est pas d'un spécialiste, c'est pas ça que j'ai étudié le plus chez saint Thomas d'Aquin, pour être franc. Mais je crois quand même que ça peut mettre un peu de clarté. Saint Thomas a été impressionné par la force du système aristotélicien. Il a vu là, vous voyez, cet accord entre une morale et une anthropologie. C'est-à-dire que c'est pas seulement, il faut faire ceci, il faut faire cela, mais ça s'appuie sur la structure même de l'être humain. Et de fait, c'est impressionnant. Une morale qui a pour fondement une vision de l'âme humaine, de sa constitution en quelque sorte, et qui décrit les vertus comme le moyen d'épanouir ce qu'est l'être humain dans son fond, c'est vraiment une chose très satisfaisante pour l'esprit. Donc il va définir la vertu comme un habitus opératif bon. Alors j'explique tous les mots. Habitus, vous commencez à voir ce que ça recouvre, donc c'est ce fameux exis d'Aristote, c'est-à-dire une disposition stable qui est mise dans l'homme. Opératif, parce que c'est quelque chose qui est tourné vers l'action, et bon, parce que si ce n'est pas bon, ça sera un habitus négatif, ça serait le vice, qu'on appelle un vice. Donc si c'est une vertu, c'est évidemment que c'est bon. Alors il connaît plus que les vertus morales, il connaît des vertus intellectuelles, par exemple, spéculatives, la sagesse, ou pratiques, le sens pratique. Les gens qui ont le sens pratique, qui ont cultivé capacité de savoir se débrouiller avec, avec un moteur de voiture, avec je ne sais pas quoi. Enfin, bon, tout ça, c'est des vertus, mais qui se sont acquises progressivement et qui font qu'on le fait naturellement et facilement. Donc il y a des vertus morales, alors on va y revenir, et les fameuses vertus théologales aussi, qui se gardent bien d'oublier, les trois vertus théologales. Alors la plupart de ces vertus sont des vertus acquises, par, comme le dit Aristote, par l'éducation et par l'exercice. L'exercice qui nous oblige à refaire souvent des actes qui vont dans ce sens-là et finalement que ça devienne naturel. Alors néanmoins, il y en a quelques-unes qui sont infuses. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans le langage de saint Thomas, une vertu infuse ? C'est quelque chose qui a été mis en nous par Dieu comme un don. Alors c'est évidemment vrai des vertus théologales. À notre baptême, nous avons une infusion de foi, d'espérance et de charité. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de les mettre en valeur et que si on les laisse mourir, si on les entretient pas, elles vont peut-être pas être tout à fait comme il faut, mais c'est quand même pas nous qui les avons acquises. C'est un don de Dieu qui nous proportionne à quelque chose qui est au-delà de l'homme. Les vertus morales sont référées évidemment à l'action humaine avec nos semblables ou avec des réalités de notre corps, mais en tout cas c'est à échelle humaine, tandis que les vertus théologales ne sont pas de ce type. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelle théologales. Mais saint Thomas connaît aussi des vertus morales infuses. Alors, ça m'entraînerait trop loin de vous en parler, parce que ce n'est pas vraiment notre sujet de ce soir, mais il pense que effectivement Dieu, dans le combat spirituel, donne en plus des vertus que l'homme peut avoir acquis, plus ou moins utilisées jusque-là, parfois une grâce, une vertu qui n'était pas présente jusque-là et qui va d'un coup développer un côté de son être. Reçoit le don d'une chasteté extraordinaire dans des conditions pas faciles, ben voilà, Dieu lui fait la grâce d'une vertu morale infuse. Bon, enfin, laissons ce côté qui est un peu marginal par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Revenons aux vertus morales acquises qui sont les principales et qui... La grande audace de saint Thomas, c'est de voir, tout à fait à l'inverse des stoïciens, les vertus beaucoup plus comme affermissant que comme combattant les passions. La vision que saint Thomas des passions n'est pas du tout aussi négative que les stoïciens, et même en grande partie saint Augustin, qui voyaient plutôt comme des ennemis de l'âme, enfin, qu'il fallait tenir sérieusement en main. Saint Thomas, de façon plus réaliste certainement et plus juste, voit les passions comme ces mouvements de l'âme qui peuvent être bons ou mauvais, qui ne sont pas forcément mauvais en soi. Enfin, si par exemple, je suis très indigné par une injustice, si j'ai envie de me rebeller contre une décision qui me paraît vraiment contraire à la justice, eh bien, ce mouvement n'est pas si mauvais que ça en soi. C'est quand même le sentiment de la justice qui l'anime. Et le tout, c'est qu'il ne faudra pas que je tue quelqu'un pour ça, quoi. Et que donc, la vertu va avoir un rôle modérateur sur ça. Mais d'un autre côté, la vertu aura surtout le sens d'affermir et de diriger la passion, enfin le mouvement affectif spontané dans le bon sens. Mais au lieu d'imaginer qu'au fond l'idéal ça serait un homme ou une femme sans élan, sans désir, sans force, etc., ben c'est au contraire de discipliner tout ça, mais aussi de l'utiliser. Ça peut être, c'est peut-être un mauvais maître les passions, mais ça peut être un bon serviteur. Vous voyez ? Donc saint Thomas nous donne cette vision des choses qui est quand même impressionnante. Et le courage, c'est-à-dire la force, fortifie l'homme affronté au danger, mais elle tempère l'impétuosité du téméraire. Elle a deux côtés, elle a un côté affermissant et un côté modérateur. Il y a des vertus qui sont plus spécialement affermissantes et d'autres plus modératrices. Par exemple, évidemment, la tempérance a plutôt un côté modérateur, c'est évident, comme son nom l'indique. Mais la force, par exemple, aura un côté souvent d'affermissement. De toute façon, tout ça doit être sous le jugement de l'intelligence, par le biais de la prudence. Alors, saint Thomas insiste énormément sur le rôle de la prudence, qui pour lui est aussi une vertu mitoyenne, c'est-à-dire qui tient du côté intellectuel, le côté raisonnable de la prudence, qui connaît les tenants aboutissants, mais qui aussi va entraîner l'action, et donc qui est préalable à toutes les vertus morales. Voilà, je vous ai rappelé, oh là là, misère, j'ai plus qu'un quart d'heure pour le plus important, c'est-à-dire d'essayer de voir. Donc, vous voyez, on est impressionné par ça, il est clair qu'on ne peut pas complètement négliger ça et dire que c'est pas intéressant, quoi. Il y a énormément d'intelligence et de bon sens même dans tout ça. Alors, le Père Saint-Thys, dans son livre, montre ça avec des exemples et toutes sortes de choses, il examine chacune des vertus, etc. Moi, je n'ai pas le temps de faire ça. Mais c'est sûr que quand on a entendu ce que je vous ai dit au début, cette morale des vertus qui est mise en opposition avec la morale de l'obligation, qui présente le commandement comme quelque chose d'aliénant, qui nous met dans l'angoisse de la faute et la peur du châtiment, on tique quand même un peu, quoi. Moi, je veux bien qu'on mette en valeur les vertus, mais enfin, le fait de devoir choisir entre les commandements et les vertus me plonge dans un certain malaise, vous vous en rendez compte. Parce que je vois très bien tout ce que ça risque d'entraîner. C'est-à-dire que si on dit... Alors, c'est ce que je vous dis, là. D'abord, on tourne le dos à l'expérience biblique, clairement, qui commence par Dieu à parler. Rappelez-vous notre premier cours. C'est d'abord Dieu qui révèle à l'homme ses intentions sur lui. Il ne lui révèle pas qu'il a des vertus en lui. Il lui dit d'abord, tu ne tueras pas. Tu ne feras pas de faux témoignages, etc. Donc, ça commence par ça. Donc, le précepte n'est pas d'abord la contrainte plus ou moins mortifère qui nous traçait en disant on a la peur, l'homme devient craintif, on a peur de transgresser les prescriptions, etc. Toute cette caricature nous coupe de nos racines bibliques et juives. Parce que dans le judaïsme, et c'est même une chose que nous admirons dans le judaïsme, c'est-à-dire le fait que l'observance est un don de Dieu qu'on reçoit avec gratitude et on met un soin amoureux à obéir jusqu'aux moindres exigences du Dieu saint. Jésus n'a pas dit autre chose, il a dit « je ne suis pas venu abolir la loi mais l'accomplir », pas un seul trait de l'écriture ne passera. Donc, on ne peut pas dire, vous voyez, l'opposition caricaturale entre l'homme qui se fait lui-même, qui se fait les beaux biceps spirituels et moraux et qui s'élève, une belle construction, etc. Puis par ailleurs, la morale, on ne dit pas des commandements d'ailleurs, d'obligation, c'est encore une manière de la déprécier un peu plus. Moi, je ne peux pas accepter ça. Donc il faut absolument qu'on les tienne ensemble, parce que sinon, nous n'avons pas à choisir entre la morale de l'obligation, du commandement, je veux mieux dire ça, et la morale des vertus. Parce que cet idéal de la construction de soi, d'abord, il est très orgueilleux, c'est le pélagianisme, quoi. C'est de dire l'homme, par ses propres forces, s'élève vers Dieu. Alors bien sûr, on dit Dieu, il est présent dans tout ça, il est le but qu'on se propose, il est la fin que l'homme poursuit, mais en attendant, c'est l'homme qui semble presque le seul acteur de sa construction. Et puis, encore une fois, ça privilégie une expérience très particulière qui est celle de... de quelqu'un qui a pu recevoir une bonne éducation, qui est relativement, enfin, dont les passions sont relativement domestiquées, qui arrive à progresser de façon harmonieuse, mais c'est même pas tellement notre expérience. Enfin, je sais pas comment vous êtes, mais l'expérience, c'est pas qu'on devient de mieux en mieux comme le vin qui vieillit, quoi, et donc, il y a souvent des retours en arrière. Dire que le vertu, par exemple, on fait les choses naturellement, spontanément, mais il y a sur des points de la morale chrétienne, on ne fera jamais spontanément. Enfin, c'est pas ça la réalité de notre vie. On voit bien que, alors, beaucoup de choses, peut-être, de fait, moi, j'avoue que l'honnêteté, ça m'est assez naturel. Enfin, j'ai pas envie de piquer dans la caisse, mais sur d'autres points, je suis beaucoup moins fier de moi. Enfin, je dois reprendre sans cesse l'effort. Alors, il paraît que la vertu, ça, on le fait naturellement et simple et facilement. La petite Thérèse, je sais pas si elle dit ça. Enfin, donc, vous voyez, il faut absolument que, si on veut faire une place aux vertus, on ne démolisse pas tout ce que nous avons fait jusque-là. Parce que sinon, on aura travaillé pour rien. Alors, moi, voilà ce que je retiens de cette morale des vertus, si vous me permettez, ces deux points. D'abord, le projet de Dieu n'est pas arbitraire. Il y a bien une correspondance dans l'être humain de ce que Dieu nous montre. Que quand Dieu nous commande d'être bon, de prendre soin de notre prochain, de tout ça, il y a en nous des semences de vertu, comme dit saint Thomas, qui existent et qui vont dans ce sens-là. C'est tout le sens que, rappelez-vous, notre deuxième cours où nous avons essayé de regarder comment la parole de Dieu ne venait pas rejoindre une terre rase. Il y avait du côté de l'homme une conscience. Il y avait du côté de l'homme un certain sens des valeurs. Bon, peut-être aussi il y a effectivement en l'homme des capacités que Dieu a mises pour aller dans le sens de sa volonté. On va pas nier ça quand même. Je crois qu'il faut qu'on voit que peut-être l'avantage de nous parler des vertus, c'est de davantage marquer que ce que Dieu commande à l'extérieur trouve à l'intérieur de nous une espèce de réceptacle, de réceptivité, pas parfaite, puisque nous sommes pécheurs, et que le péché originel nous a un peu abîmés, mais enfin quand même réel. D'autre part, toute cette réflexion humaine autour des vertus, bah, après tout, c'est ce qu'il y avait de juste dans ce qu'il disait, il dit c'est le courant sapientiel, c'est-à-dire la sagesse. De fait, si la Bible a fait droit à la sagesse des nations, c'était notre troisième cours, eh bien, c'est bien parce que dans l'effort séculaire des hommes pour essayer de mettre de l'ordre dans leur vie, il y a des choses justes, des choses vraies qu'on ne va pas nier. Donc, vous voyez, d'une façon ou d'une autre, ce premier point, je crois, c'est de nous dire, nous comprenons mieux que la parole de Dieu qui nous dit des choses, c'est pas parole arbitraire d'un potentat qui nous dirait ben voilà quelles sont mes dernières décisions, il faut que vous y correspondiez. Elles ont un correspondant en nous. Ça va? La deuxième chose que j'aimerais garder aussi de cette vision des vertus, c'est que l'homme doit faire un travail sur lui-même. C'est-à-dire que pour obéir à Dieu, pour faire ce qu'il nous demande, compte tenu de nos limites, il faut absolument que nous mettions en valeur tous nos atouts, puisque nous en avons. Il nous est demandé, autant que nous pouvons, de les mettre en valeur. Ça correspond à cette exigence qui n'est pas seulement celle de la philosophie, mais qu'on trouve aussi chez les auteurs chrétiens, connais-toi toi-même. Notice et automne, c'est marqué, paraît-il, sur le temple de Delphes. Hein. Mais connais-toi toi-même, c'est aussi un précepte chrétien. Donc, voir davantage comment, par exemple, notre sensibilité peut obscurcir notre jugement, voir comment... faire une place à la prudence, c'est pas seulement vouloir s'organiser comme si Dieu n'existait pas et faire l'impasse sur sa sagesse, c'est tout simplement compter quand même sur le discernement qu'il nous a donné. Il n'est pas nul. D'ailleurs, il y a des domaines où les commandements, il n'y en a pas. Il y a certains points précis d'action où il n'y a pas un commandement, il n'y a même pas une loi de l'Église qui s'applique à ce cas-là. On se trouve face parfois à des situations complètement imprévues, sur lesquelles il va bien falloir qu'on décide, quoi. Est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il ne faut pas le faire ? Eh bien, c'est là que Dieu nous a donné quand même un discernement, une capacité de voir. Alors, on appelle ça en théologie morale l'épiqui. Et accent aigu P-I-Q-I-E, c'est-à-dire la capacité que nous avons, avec l'Esprit Saint qui nous a été donné, de prolonger des exigences de Dieu que nous connaissons vers des cas qui apparemment ne sont pas clairement indiqués. Par exemple, on peut imaginer une situation matrimoniale très compliquée dans laquelle, est-ce que j'ai le droit d'interrompre la cohabitation conjugale parce que je me trouve face à une telle difficulté absolument insurmontable en apparence. La décision ultime, elle est difficile à... bien sûr, savons que ceux qui sont mariés, ils sont donnés l'un à l'autre pour toujours, mais enfin... jusqu'à quel point, si on est battu par son conjoint, il faut rester sous le même toit, c'est peut-être une question qu'on peut se poser, quoi. La place de la prudence n'est pas nulle. Et il faut l'éduquer, cette prudence, pour qu'elle ne soit pas justement une prudence purement humaine, qu'elle essaie de se nourrir de la réflexion, de la prière, demander des conseils, essayer de s'éclairer, mais en tout cas, la prudence n'est pas vaine. De même, la force, aujourd'hui, c'est pas très bonne presse, la vertu de force, parce qu'on la confond avec la violence, la brutalité, mais c'est pas du tout ça, la force. C'est la capacité de tenir ferme dans ce qu'on veut, et de demander la force, de s'entraîner à être fort face à la contradiction, par exemple, si on doit tenir un point de vue et qu'il n'est pas du tout reçu dans notre milieu, où il faut... sans cesse dire non, quand même je tiens à ça, c'est vraiment important. C'est tout ça, ça demande une certaine discipline de certains et cette vertu de force. Alors je dis aussi un mot de la tempérance qui, alors là on voit un peu mieux comment, par rapport à nos différents appétits, arriver à non pas éradiquer nos mouvements intérieurs, parce que c'est pas possible, et puis il ne s'agit pas de faire ça, mais les discipliner, les orienter. Quelqu'un a écrit un traité pour montrer que les péchés capitaux sont souvent l'envers de choses qui seraient peut-être belles si elles n'étaient pas mal orientées. Même la gourmandise, c'est le désir d'absorber le monde, tout ce qu'on peut, jusqu'au risque de se rendre malade, mais ça correspond à une espèce de fringale d'aller vers quelque chose de plus fort, qui nous pousserait, permettrait de franchir en quelque sorte nos limites. Donc tout ça, toute cette discipline de nos instincts, tout ça, ça demande des efforts, ça demande aussi une mise en valeur des vertus. Et quant à la justice, nous voyons bien comment, pour arriver à respecter notre prochain, pour considérer qu'il mérite, il a autant de droits que nous et que pas le droit de profiter de lui, ça demande de restrictions par rapport à notre tendance naturelle qui est de faire servir les autres à notre réussite personnelle, quoi. Donc, Donc les vertus, de cultiver les vertus, n'est pas du tout contradictoire avec ce que Dieu nous montre. Et c'est même la manière, si vous voulez, c'est plutôt les exercices de gym qui vont permettre, au moment où on sera face à un combat réel, de pouvoir le mener bien, quoi. Et donc tout ce travail sur nous-mêmes, eh bien, c'est peut-être utile, et de fait, il faut sans doute s'imprégner. C'est là qu'un livre comme celui du Père Saint-Yves est sans doute utile pour nous rappeler un certain nombre de règles, de principes, pour davantage de mettre en valeur ces différentes vertus. Mais je finirai évidemment en disant que tout ça n'a de sens que si on garde l'optique de l'Alliance, c'est-à-dire de ce fait que Dieu nous a révélé sa volonté sur ce qui est bien et mal, qu'il faut que nous acceptions de soumettre notre esprit et notre cœur à ce qu'il nous demande, que nous ne partions pas d'abord en disant « moi je cherche à me développer, c'est l'essentiel, et puis Dieu, il n'a rien à dire à ça, puisqu'il veut que je sois un homme épanoui, eh bien je vais essayer de réussir à l'être, et je ne tiens aucun compte des prescriptions ». C'est au contraire en écoutant soigneusement ce que Dieu a à nous dire que nous grandirons. Et surtout, il s'agit d'être conscient que notre volonté, elle est dans une histoire. Rappelez-vous ce cours, je crois que c'était le quatrième, si je me souviens bien, où on a vu comme ça la liberté humaine à la croisée des chemins. C'est-à-dire de voir que notre vie morale, ce n'est pas un long fleuve tranquille, c'est quelque chose dans lequel nous sommes affrontés au problème du mal. Nous voyons qu'en nous-mêmes, il y a des forces qui nous en tirent loin de Dieu, que nous ne faisons pas le bien que nous voudrions, comme dit saint Paul. Et pour autant, le péché originel n'enlève pas notre dignité de fils et de fille de Dieu. Donc, nous savons que nous passons par une histoire qui est finalement notre histoire avec le Christ, qui nous associe progressivement à sa passion pour que nous entrions dans la résurrection. Donc au lieu de cette vision d'une construction de soi, j'avoue que le mot m'est vraiment extrêmement désagréable, cette idée qu'on arriverait par des méthodes plus ou moins humaines à construire sa personnalité comme on construirait sa maison, eh bien, resituons toujours ça dans l'histoire de nos relations avec Dieu, dans cette perspective de l'alliance, c'est-à-dire du don de Dieu premier qui nous donne la lumière, qui nous donne les moyens d'avancer, et face auquel, eh bien, nous laissons guérir notre liberté malade et la conduire jusqu'au port. Il est très frappant que saint Thomas lui-même a dû réintroduire le péché originel dans son anthropologie. Saint Thomas, avant d'écrire la somme théologique, avait écrit une somme contre les gentils, qui était première ébauche, on peut dire, de la somme théologique, et il réservait le péché originel à la dernière partie, c'est-à-dire les vérités qu'on professe quand on est chrétien. Parce que même la Trinité, mais dans les trois premiers livres, il disait les vérités à laquelle tout le monde pourrait accéder, quoi, qu'il soit juif, musulman, chrétien. Voilà, c'est de la philosophie, c'est pour tout le monde. Et puis quatrième partie, c'était uniquement pour les chrétiens. Et le péché originel n'arrivait que dans la quatrième partie. Tandis que dans la somme théologique, eh bien, justement, c'est une somme théologique, c'est pas une somme philosophique. Eh bien, dans son traité des vertus, enfin juste après le traité des vertus, il place une réflexion sur le péché originel, c'est-à-dire cette incapacité congénitale qui nous a frappés, qui fait que nous ne sommes pas dans une espèce de construction régulière d'un beau modèle que Dieu finirait par bénir en disant « c'est très bien mon petit ami, tu as fait ça, c'est bon, tu es sauvé », que c'est une histoire dramatique dans laquelle nous relevons, nous repartons, nous combattons, etc. Mais voyez, il faut arriver à tenir ensemble ces deux visions. C'est pas si simple. Et moi, je suis prêt à donner une place à la vision des vertus. J'essaie de le faire honnêtement aujourd'hui. Mais n'oublions pas que notre histoire est d'abord une histoire religieuse, une histoire de notre liberté. et qu'elle doit pouvoir valoir pour tous les hommes, y compris les plus faibles, les plus pauvres, de ceux qui n'ont pas de volonté, de ceux qui sont, comme nous dirions, des pauvres types, quoi. Saint Augustin avait tout à fait ce sens de dire, monsieur Pélage, vous écrivez pour des héros, des gens, peut-être des moines comme vous, qui ont une grosse discipline sur eux-mêmes, qui veulent être... Et le tout venant, alors, et les pauvres gens, et les autres, comment, quelle place vous leur faites ? Le christianisme est beaucoup plus miséricordieux pour eux, parce que les autres, ils sont écrasés par ce modèle. Voilà. Excusez-moi.